Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches? Tu hésites? Tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes.
Sur Radio Barthes 107FM.
Ben bonjour Barthas, bonjour Véro, quel plaisir de se retrouver ici à nouveau pour une émission du Chaudron. Alors je vais vous dire, c'est à l'occasion d'une rencontre fortuite que cette émission s'est mise en place. En séjour sur le Larzac, et plus précisément dans le camping du Cun au-dessus de Millau, j'ai retrouvé des lieux remplis d'une belle histoire. Si, entre autres, la Jasse, la ferme des Baumes, Saint-Martin du Larzac, Montredon, enfin, bref, des lieux qui ont connu une certaine lutte mémorable. Avant de parler de ma rencontre, enfin de notre rencontre, car nous étions deux avec mon compagnon, est-il utile de rappeler de quoi ce paysage magnifique du Causse lazarcien fut le théâtre? Peut-être, peut-être pas. Allez, rappelons. Et oui, en effet, 1971-1981, 10 ans de lutte des paysannes et paysans du Larzac, éleveuses et éleveurs de brebis, pour garder leurs terres face à la menace de l'extension du camp militaire. De 3000 hectares, l'armée veut passer à 17 000 hectares, 11 communes impactées et 107 exploitations concernées. Voilà ce que dit le secrétaire d'État à la Défense nationale, André Fanton, en octobre 1971. « C'est une région où il y a quelques paysans qui élèvent vaguement des moutons en vivant plus ou moins moyenâgeusement et qu'il est nécessaire d'exproprier. » Très perspicace, monsieur Fanton. Pas de problème, expulsez donc et vous verrez. Et il a vu. Connaissez-vous Montredon? Montredon est un joli hameau de pierre au toit de l'Ause qui fut un point stratégique et de convergence de la lutte. Outre le fait qu'y habite un certain José Bové, ce hameau accueille depuis 30 ans, tous les mercredis soirs en été, un marché paysan. Divers produits en bio ou en agriculture raisonnée, spectacles, musique et la brebis qui lit, la librairie militante du Larzac, animé par des bénévoles. Revenons donc à notre rencontre. Cette soirée de juillet, nous étions aérés dans ce marché du mercredi soir, donc à Montredon, quand nous croisons une femme qui s'adresse à nous sur le fait qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est vrai que le champ se remplit de pique-niqueurs et la discussion se poursuit informelle sur ce marché fort sympathique. Et moi, plus elle parle, plus un doute s'insinue. Doute qui se transformera en certitude quand la dame nous dit être de la famille Burguière. Eh oui, nous sommes face à Christiane Burguière, une des actrices de ce combat. Et je la reconnais car elle est présente dans le film de Christian Rouault, Tous au Larzac, qui date de 2011. Belle rencontre. Elle est charmante et modeste, mais nous demande quand même « Vous avez lu mon livre ?» Et là, aïe, 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 non Christiane, j'en ai lu des choses sur le Larzac, mais pas votre livre. Alors, ni une ni deux, je file à la librairie. Ouf, il reste 2 exemplaires. Et la libraire nous dit, faites-le dédicacer par Christiane, ça lui fera plaisir. Franchement, je n'y aurais pas songé, mais l'insistance de la libraire, sous-entendant que non seulement ça lui fait plaisir, mais aussi du bien, nous autempérons et essayons de retrouver Christiane, qui dans sa déambulation ne fait que rencontrer des gens qu'elle connaît. Mais nous finirons par y arriver. Je reviendrai sur le livre de Christiane Burguière. Mais avant, petite parenthèse sur le camping. C'est un éco-camping qui, sur 2 hectares, propose des emplacements et des logements sympathiques, tout cela niché dans une végétation abondante. Camping fort agréable, tenu par un jeune couple sympathique, défendant des valeurs de développement durable. Près des sanitaires, il y a des panneaux avec photos et écrits qui relatent les événements de cette lutte. Quatre objecteurs de conscience insoumis au service civil avaient décidé de venir y vivre, occupant illégalement une maison appartenant à l'armée, et de faire vivre un lieu alternatif, un lieu d'objection politique et sociale. Pendant longtemps, il a été un lieu de recherche, de formation sur les différentes formes de défense non violente. Le lieu est aujourd'hui géré par une association. Alors, parmi les nombreux écrits, documents ou films sur le sujet, je vais en évoquer quelques-uns. Paroles du Larzac, ouvrage collectif de 2012, aux éditions Priva. Garde à Rem, de Christiane Burguière, 2011, réédité en 2024. Toujours aux éditions Priva. Larzac, Terre de lutte, de Pierre-Marie Terral, en 2024, édition Priva. Le Larzac s'affiche, de Solveig Le Thor, 2011, édition du Seuil. Et puis, des films. Garde à Rem, Lo Larzac, dans le cadre du gaufret des paysans ne sont pas à vendre, de Philippe Audiquet, en 1974. Et puis le film dont je parlais tout à l'heure, « Tous au Larzac » de Christian Rouault en 2011. Ensuite, l'inévitable revue « Garde à Rem, Lo Larzac », le journal solidaire du Larzac. Et un petit livret, « Focus 1971-1981, la lutte contre l'extension du camp militaire du Larzac », issu de l'exposition au service archives de la mairie de Millau. Je vais vous parler du livre « Le Larzac s'affiche ». C'est un livre que je trouve beau, drôle et émouvant. Car, comme le dit Solveig Le Thor, autrice de l'ouvrage, je la cite. « L'art de l'affiche est un langage dont la grammaire reste indéfinie et dont le vocabulaire est sans cesse croissant. Il est surtout le reflet d'une société. Document historique, qui fournit une information précieuse sur certains événements, l'affiche représente une illustration vivante et suggestive d'un mouvement et de son évolution. » Fin de citation. Et en effet, ce livre trace donc 10 ans d'affiche. Il y a de l'esthétisme, du message, de l'humour, mais surtout, toutes ces affiches expriment de la colère, une ferme résolution à ne pas lâcher. Et pourtant, il en aura fallu du courage à ces femmes et ces hommes pour durer, continuer à lutter tout en assurant leur travail quotidien. Et puis, autre élément important, c'est la créativité de ces affiches en elles-mêmes qui symbolisent toutes les actions qui ont été menées. Chaque coup de butoir de l'armée ou des politiques aura été le déclencheur de projets incroyables et qui seront menés à leur terme, même si pour certaines actions, des lacrymogènes auront fusé. Mais malgré tout, le poids du nombre et de l'organisation fera reculer les défenseurs de l'extension du camp. Nombreux ont été ceux qui ont accompagné ce mouvement. C'est la particularité de cette histoire. C'est qu'il y a eu des développements au niveau national et même international. Et cette incroyable mobilisation, comme le dit Bertrand Tavernier à propos du film « Tous au Larzac », 10 ans de résistance, d'intelligence collective et de solidarité. Et donc, cette mobilisation aura fini par gagner. Voir les films et reprendre les ouvrages permet de mieux cibler les protagonistes. J'avais déjà vu le film, mais lors de mon passage à la JAS, ancienne bergerie devenue magasin de producteurs locaux et lieu de mémoire de la lutte, j'ai acheté le DVD de « Tous au Larzac » qui en fait en comprend deux. Le premier est le film de Christian Rouault et le second est intitulé « Après la lutte » qui comprend des entretiens de ces fameux acteurs de cette lutte. La jeune femme qui tient le magasin ce jour-là nous dit qu'elle n'avait jamais vu le film. Et là, elle a dû voir mon étonnement, voire ma vague réprobation, et s'est empressée de rajouter qu'elle avait tellement entendu parler des événements par les anciens. Et comme pour se dédouaner, elle ajoute qu'un reportage sur ce combat par les élèves du collège de la cavalerie est passé sur Radio Larzac. Nous en reparlerons. Donc, tout a commencé par des paysans estomaqués d'apprendre par la télévision, lors des informations du soir, qu'ils allaient être expulsés. Le mari de Christiane Burguière, Pierre Burguière, dont le repas fut gâché et l'appétit coupé, rappelle « Nous avons ressenti un tel mépris que pour nous c'était quelque chose d'inadmissible et d'intolérable. » Ce qui est intéressant dans cette lutte, c'est une grande leçon de démocratie, ou comme le dit Jacques Semelin en préface du livre de Pierre-Marie Terral, Larzac, terre de lutte, celui de 2024, c'est une véritable épopée sociale. Tous les ingrédients d'une lutte acharnée sont là. Il y a d'une part les enjeux, comme le dit Jean Chesneau, historien qui accompagna la lutte dans Paroles du Larzac. Enjeux socio-économiques, le droit à travailler la terre, enjeux écologiques, préservation de l'espace naturel Cosenard, enjeux politiques, refus de l'arbitraire du pouvoir étatique, enjeux militaires, un fort antimilitarisme très en vogue à l'époque, enjeux idéologiques, la non-violence. L'autre élément important est la diversité des acteurs et leur implication. Les paysannes et paysans, bien sûr. Les fédérations agricoles, du moins au début. Mais il y aura un tournant dans le mouvement avec la création de la Confédération paysanne et, de leur part, le refus de négocier, comme le souhaitait la FNSEA. Il y eut aussi le clergé, des prêtres et même des évêques qui se prononcèrent contre l'extension du camp. Également la communauté de l'Arche, avec Lanza del Vasto, et puis des élus, des avocats, et encore plus étonnant, un ancien général de l'armée, le général de la Bollardière, qui, écœuré par les exactions en Algérie, fut mis en retraite anticipée et milita pour la justice et les droits de l'homme. Et puis, bien sûr, tous les militants, dont Bernard Lambert, originaire de Loire-Atlantique, Guy Tarlier, José Bové, et tous ceux qui s'expriment dans les films, Léon Burguière, Léon Maillet, Christiane et Pierre Burguière, Marisette Tarlier, et la foule de jeunes et moins jeunes, écolos, babacou, les révolutionnaires de tous bords, débarquant de partout pour soutenir cette lutte. Et puis ensuite, la création des comités Larzac. Il y en avait même un à New York. Et j'ajouterai des actrices de ce combat qui furent bien utiles, même si on ne leur avait rien demandé, les brebis. Et oui, les brebis qui s'installèrent sur le Champ de Mars à Paris en 72 ou envahirent le tribunal de Millau en 77. Car au début, il faut quand même bien le dire, il y avait de la méfiance de la part des éleveuses et des éleveurs du Causse.
Quand on regardait la télévision ou qu'on était penché à la radio, et, ou en tout cas quand on regardait la télé et qu'on voyait les CRS ou les gardes mobiles tabasser les étudiants ou les ouvriers, on disait bravo encore, encore. Et on n'en avait pas compris, on n'avait rien compris.
En fait, on était intoxiqués surtout.
Oui, on était intoxiqués par la radio et la télé, mais enfin, ce qu'on voyait, et puis il y a une chose sûre, on n'avait pas viré notre cutie.
On avait peur de l'évolution. Enfin, du moins... La radio et la télévision, des fois, nous faisaient peur d'évoluer aussi.
Depuis l'affaire du Larzac, ma mère, on pourrait presque dire, c'est une révolutionnaire. Et ça semble pas possible à 60 ans quand même d'avoir fait ce chemin. Pourtant, elle l'a fait parce qu'elle s'est sentie touchée profondément en elle. Et alors, maintenant, elle découvre que l'ORTF, c'est une menteuse, que les journaux, ce sont des menteurs.
Mais le mélange des genres et des gens a également fonctionné. Écoutons donc Guy Tarlier.
Les paysans sont les premiers étonnés parce qu'aucun ne croyait qu'il y aurait des gens qui seraient assez fous pour venir travailler bénévolement, sans un sou, et même à payer, puisque certains payent même 500 francs par jour pour se nourrir. C'est vraiment la plus belle action qui peut être faite dans le monde moderne, c'est-à-dire c'est l'acte gratuit, qui n'existe plus du tout, qu'on ne connaît plus. Or, qui fait cet acte gratuit? Ce sont des jeunes à cheveux longs et à barbe.
Eh oui. Il y eut donc du festif, des rassemblements fantastiques, mais aussi des moments douloureux. Il y eut des peines de prison ferme. L'attentat contre la maison de la famille Guiraud, événement ô combien grave, qui aurait mis fin au mouvement s'il y avait eu des morts. Comme le disait Marisette Tarlier, autre actrice du combat, notre force était que nous nous décourageions, mais jamais en même temps. Et comme le montre très bien le film de Philippe Audiquet, l'armée avait déjà étendu son camp, avec des atteintes graves sur les animaux et les cultures, et même des manœuvres chez l'habitant. Les deux ouvrages, Paroles du Larzac, ouvrage collectif, et Larzac, terre de lutte de Pierre-Marie Terral, sont une mine d'informations sur cette période. L'ouvrage collectif offre de nombreux témoignages, et le livre de Pierre-Marie Terral poursuit ce travail de mémoire et d'analyse. En fait, tous ces documents se complètent, car l'histoire est bien sûr la même, mais reportée sur des points de vue différents et selon des implications spécifiques. Le film de Philippe Audiquet, donc 74, met en scène les débuts de la lutte. Le film de Christian Rouault rappelle les faits 30 ans après le début de la lutte, avec le recul de ses acteurs. Et j'en arrive donc au livre de Christiane Burguière, Garde à Rheims. On a souvent entendu l'expression « les paysans du Larzac ». Mais le Larzac, c'était aussi des familles, des femmes. Modeste, lorsque nous parlons avec Christiane Burguière, cette dernière nous avoue qu'elle n'était pas toujours très à l'aise pendant les réunions et qu'elle préférait écrire. Mais c'est faux, Christiane. Dans le film, dans l'interview des collégiens, je vous ai entendu vous exprimer avec une grande justesse ou avec humour, quand, par exemple, vous racontez que les brebis installées sur le Champ de Mars n'ont pas voulu boire l'eau de Paris. Le livre de Christiane Burguière m'a touchée car il est d'une grande authenticité. Ce n'est pas une analyse sociopolitique, mais c'est du vécu. Par ailleurs, elle laisse la place aux nombreux protagonistes de cette lutte dont elle retrace les propos. C'est pourquoi je vais relayer sa parole. Les femmes ont d'abord soutenu leur mari, ont participé aux actions, se sont occupées du journal Garde à Rheims le Larzac, puis à leur tour, elles ont fait des actions comme bloquer la route aux militaires qui roulaient trop vite et mettaient en danger leurs enfants. Ou encore, lors de l'enquête parcellaire, elles sont allées récupérer les papiers concernant cette enquête et les ont déchirés. Voici donc trois extraits de son livre. La lutte est continuellement mêlée à la vie de famille. Nos enfants ne sont pas à l'écart de cette vie envahie de réunions, d'actions, de manifestations. Pendant les vacances scolaires, il nous arrive de les emmener avec nous aux manifestations et quelquefois aux réunions. Les bébés dorment dans leur landau, dans un coin d'une pièce, ou bien posés à même la paille d'une bergerie. Il n'est pas toujours facile pour les mamans de se rendre disponibles et si quelquefois nous avons évoqué l'idée d'une garderie, nous ne nous sommes jamais donné les moyens de la mettre en place. Les parents originaires du plateau ou de Millau ont la chance de pouvoir profiter de leur famille pour une garde et c'est un réconfort de pouvoir planifier une journée d'action en sachant les enfants protégés. Le problème est plus difficile à résoudre pour les couples qui viennent d'ailleurs. Dans nos maisons, au cours des repas, nos enfants nous posent des questions qui les préoccupent. « Ce monsieur, il est avec nous ou contre nous ?» À la ferme, nos filles nous demandent régulièrement, à ma sœur et à moi, combien de couverts elles doivent mettre à table, car la famille n'est pas toujours à son nombre habituel. Il est fréquent que leur papa, Jean-Marie ou Pierre, soient absents pour les besoins de la lutte, Ou bien on rajoute un couvert pour un ami militant ou un journaliste de passage. Que de repas les enfants du plateau ont-ils partagé à l'écoute d'adultes trop politiques, trop intello, trop sérieux ou mystérieux pour eux. Leur vie est mêlée à la nôtre et ils la partagent à la mesure de leurs propres émotions, d'enthousiasme ou de crainte dans le quotidien de leur âge. Selon les actions auxquelles ils participent, ils connaissent l'ivresse de lutter à leur manière et sont heureux quand des pique-niques leur donnent l'occasion de se retrouver. Dans leur jeu, ils ont le réflexe de recueillir ici ou là des bouts de bois qui traînent et des ficelles pour fabriquer des pancartes et peuvent ainsi imaginer leur propre manif improvisée à tout bout de champ, à l'école, mais aussi à chaque occasion. Alors, les exactions de l'armée, ça aussi c'était intéressant. Voici ce qu'elle dit. Après les expulsions des bergers de Cavaliès et des objecteurs du Cun, puis le vandalisme pratiqué à la ferme du Cap d'Az, les escarmouches se multiplient. Un jour, un troupeau de brebis est emmené par les militaires jusqu'au camp et leurs cloches sont volées. Sur la route de Saint-Martin-du-Larzac, qui mène au fortin militaire, les accrochages sont fréquents avec les habitants qui croisent des camions de soldats ou de ravitaillement conduits par des chauffeurs inexpérimentés roulant à vive allure. D'autres mesures répressives ont eu lieu sur les chemins de ferme, notamment sur lesquels des clous sont fréquemment semés, ce qui provoque de nombreuses crevaisons des pneus de nos voitures. Les fils du téléphone pirate installés par les paysans sont régulièrement coupés et chez certains paysans, des brebis sont même empoisonnées. Comme par hasard, les auteurs ne sont pas recherchés ni inculpés. Par contre, si nous-mêmes, paysans et habitants du plateau, nous réparons les dégâts causés par l'armée sur les routes secondaires, ou encore si nous bloquons les manœuvres militaires en dehors du camp, nous avons droit à des contrôles de gendarmerie et des contraventions. Alors, dernier extrait qui montre que les femmes n'étaient pas inactives, loin s'en faut. Le premier jour, de bonne heure et de bonne humeur, nous sommes regroupés devant l'hameau du Potensac. Osla Maillé, agricultrice à cette ferme, a arrêté son tracteur au milieu de la route pour embarrer l'accès. Devant le barrage, un camion militaire qui arrive fait demi-tour. Le lendemain matin, nous occupons à nouveau la chaussée quand une jeep arrive. Nous avons juste le temps de former une chaîne, mais la jeep ne ralentit pas et, à toute vitesse, réussit à nous faire lâcher prise. Nous nous écartons pour la laisser passer avant qu'elle ne fonce dans le groupe. La frayeur nous envahit, nous sommes choqués et révoltés. Cette provocation nous confirme que leur attitude est dangereuse pour tous. Nous faisons un sit-in pendant que quelques-unes essayent de discuter calmement avec un officier. Nous sommes ahuris de sa réponse face à nos craintes. « Soyez tranquilles, nous avons de très bons médecins militaires. » Et voilà. Ce fut donc une lutte incroyable, une énorme mobilisation, le serment des 103 qui se sont engagés à ne jamais vendre leurs terres à l'armée, de multiples actions qui étaient parfois illégales, mais comme le dit José Bové, il y a illégalité et légitimité, une question qui se pose encore souvent aujourd'hui dans de nombreux combats. En 1981, après l'abandon du projet, il va encore se passer beaucoup de choses. La création de la Société civile du Larzac, SCTL et GFA, Groupement foncier agricole, qui permettent une gestion collective, offrant une alternative à la propriété privée, tout en perpétuant l'esprit d'autogestion de la lutte. Et puis aussi, la mise en place d'actions solidaires à travers le monde, défense contre des projets arbitraires et inutiles en Nouvelle-Calédonie, à Papeete, au Japon. Des rencontres internationales pour la paix en 1981 et puis de nouveaux rassemblements en 2003, en 2023. Alors, le Larzac et aujourd'hui, eh bien, de la lutte des paysans du Larzac, il reste un modèle de gestion des communs et un journal qui, 50 ans après sa fondation, maintient toujours la flamme. L'Humanité Magazine est allée à la rencontre de la relève qui perpétue l'esprit de résistance du Larzac. Je cite le magazine qui a interviewé Chantal, secrétaire de rédaction, mais aussi responsable des abonnements, des envois et de bien d'autres choses dans ce journal, qui est constitué presque entièrement de bénévoles. Elle prend aussi la plume quand elle est en rogne, dit-elle. Son dernier article s'attaquait au mouvement de la colère paysanne en 2024. Voici ce qu'elle dit. « Les agriculteurs m'avaient beaucoup énervée. Je n'adhère pas du tout à ce discours où ils se placent en éternelle victime d'un système qu'ils alimentent. Avec eux, ce sont toujours les mêmes boucs émissaires, les écolos, les normes européennes contre les pesticides, l'Europe, alors qu'avec la PAC et les aides, ils en bouffent largement de l'Europe. » Et voilà, c'est dit. Et en fait, il y a tellement de choses à dire sur cette lutte que, bien sûr, il vous faudra chercher d'autres informations. Le film « Gardamer le Larzac » de Philippe Audiquet, 74, est à la médiathèque de Florac. Quant aux ouvrages, eh bien, on les trouve en librairie ou à la JAS, si vous allez faire un tour par là-bas. Et le livret se trouve à l'office de tourisme de Millau. Mais pour finir, je vais laisser la parole aux collégiens de la cavalerie qui, avec deux de leurs professeurs et Radio Larzac, ont construit une belle émission sur cette lutte.
Janine et Christiane Burguière.
On a fait surtout un rôle d'accueil, surtout Janine, même moi, parce que nos maisons étaient à côté, et comme c'était sur le bord de la Nationale, il y avait beaucoup de gens qui s'arrêtaient à la ferme pour avoir des nouvelles, pour savoir qu'est-ce qui se passait et tout ça.
À l'aide de cartes, nous avons pu reconstituer une image de l'extension du camp des différents espaces concernés par la lutte. Le plateau du Larzac se situe au sud du massif central dans l'Aveyron. Le camp militaire aujourd'hui s'étend de la cavalerie jusqu'à Montredon et la Blaquière et jusqu'au Liquis. Aujourd'hui, le camp fait 3500 hectares. Le camp du Larzac qui devait se construire s'étendait de la cavalerie jusqu'à la Couvertoirade et presque jusqu'à Millau. Il devait le faire passer de 3500 hectares à 17 000 hectares et nécessite l'expropriation de 109 familles de paysans qui pratiquaient la culture de céréales et l'élevage de brebis.
Rapidement, les paysans concernés s'organisent pour garder leurs terres menacées par l'extension du camp.
12 octobre 1970, annonce du projet d'agrandissement du camp militaire du Larzac par le secrétaire d'État à la Défense mondiale. 6 novembre 1971, 6000 personnes manifestent à Millau à l'appel de la FDSEA. C'est la première mobilisation importante.
Justement, on a commencé en 1971 quand on a appris à la télévision par le ministre des Armées, Michel Debré, à l'époque, il s'appelait. Il a dit à la télévision, j'ai décidé d'agrandir le camp militaire du Larzac de 3 000 à 17 000 hectares. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé, ça, c'était tout. Voilà, on a appris ça. Donc, on a croisé les bras. Moi, je me rappelle, avec mon mari, on a dit, mais c'est pas possible. On était furieux, quoi. Ça nous tombait sur la tête, comme ça. Donc, bon, je me demande même si on a mangé notre repas du soir, parce que c'était à 7 heures du soir. Et puis, le lendemain, on a téléphoné à des personnes, des voisins, de la famille, tout ça. Et on était vraiment très, très anéantis, quoi. On était choqués.
3 juin 1981, annulation du projet d'extension en Conseil des ministres après arbitrage de François Mitterrand.
Et après, les traces du mouvement ne se sont pas effacées. Au contraire, la lutte contre l'extension du camp a permis de garder la sécurité de l'utilisation des terres dans un but agricole. Grâce à la mise en place de la SCTL, Société Civile des Terres du Larzac.
L'outil qui reste sur le plateau du Larzac, c'est que finalement, à la fin de la lutte, le camp, il s'est pas agrandi.
Nicolas Galtier.
Que l'État, il a gardé la partie qui devait être l'extension du camp du Larzac. Donc ça appartient toujours à l'État, mais ils ont expérimenté. Il y a une société civile, la SCTL, la Société Civile des Terres du Larzac. Donc en fait, les terres qui étaient prévues dans l'agrandissement du camp militaire. Elles sont donc toujours à l'état. Elles sont gérées collectivement par des gens ici sur le plateau. Et ça reste un outil collectif qui reste aujourd'hui super pertinent parce que, par exemple, ma mère, elle fait partie de donc ceux qui sont arrivés pendant la lutte. Là, elle a utilisé un outil agricole. Et ben, quand elle va arriver à la retraite, elle va devoir quitter la ferme, là où elle a vécu, où je suis né. Et cette ferme, il y a d'autres candidats qui vont postuler et qui vont pouvoir avoir un outil agricole pour quasiment rien. Et ils vont pouvoir travailler la terre et vivre ici et faire du lien avec les gens, nourrir les gens. Et en fait, ce truc-là, c'est grâce à la lutte.
Aujourd'hui, nous fréquentons le collège du Larzac. Certains d'entre nous y vivent. Nous voulons le garder libre grâce à notre passé et continuer à y rester et à répandre cette histoire qui nous a précédés.
Απόψιν, απόψιν τα μέσα νυχτά. Απόψιν, απόψιν τα μέσα νυχτά. Σηκώθηκα να γράψω στο πουλάκι μου. Σηκώθηκα να γράψω τριγωνάκι μου.
Eh bien, fin de cette émission et merci à Christiane Burguière pour cette belle rencontre. Merci aux collégiens de la Cavalerie et à Radio Larzac. Et merci à toi, Véro, et que la lutte continue.
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches? Tu hésites? Tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.